Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Et je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et non, ce n'est pas un au revoir, mais un bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Bienvenue pour votre émission Un livre sur le zinc en partenariat avec la librairie, la livrerie et la médiathèque départementale de Lozère. Excusez-moi pour ce jingle, je me suis trompé, on est en direct à la radio, on n'a pas l'habitude.
On est tous en train de partir.
Ouais, je sais, je suis désolé. Allez, ce soir, nous avons choisi un thème aussi subjectif que fascinant, qui est la beauté. Non pas celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses, qui n'est évidemment pas à remettre en question, ni même celle des histoires que nous vous présentons habituellement, mais bien la beauté des couvertures de livres. Car soyons honnêtes, ne juge-t-on pas souvent un livre à sa couverture ? Mais voilà le dilemme, ne vaut-il pas mieux une belle histoire dans une couverture moche qu'une histoire médiocre dans un bel écrin ? Et surtout, achète-t-on vraiment un livre qui arbore une couverture franchement disgracieuse ? Là est toute la question, Elodie. D'ailleurs, Elodie me confie en off juste avant l'émission, car il faut savoir qu'elle est quand même venue à 18h, m'a poussé à venir ici en avance et ouvrir une bouteille de vin rouge pour discuter avec elle. Elle me disait « Dis-moi, toi qui es si séduisant, ce n'est pas trop difficile à porter au quotidien ?» Ce à quoi je répondis « Écoute Elodie, je ne vais pas te mentir, c'est un poids. Certains jours sont plus durs que d'autres. » Heureusement que tu es aussi humble, drôle et intelligent, me dit-elle. C'est vrai, et puis mon engagement bénévole auprès des enfants qui meurent de faim dans le monde m'aide à relativiser. Vous l'aurez compris, l'important, c'est ce que l'on a à l'intérieur. Et c'est justement pour ça que nous allons vous parler une nouvelle fois d'histoires formidables avec Elodie, qui est donc là. Salut.
Et bonsoir.
Pauline, bonsoir Pauline.
Salut tout le monde.
Valérie qui est arrivée sur le fil.
Ben oui, mais je suis arrivée quand même.
Exactement, Thomas qui est là.
Vous ne savez pas que j'étais
funambule. Salut Ludo, re-salut plutôt.
Et re-salut. Et Marlène.
Salut.
Marlène qui m'a bien envoyé le livre qu'elle allait présenter, même si je ne l'ai pas vu sur notre conversation WhatsApp, mais je vais me rattraper dans cette émission. Allez, est-ce que vous voulez une petite histoire de couverture en France ou pas ?
Allez, carrément.
Alors, rapidement, hein, j'ai trouvé ça sur un blog intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais le présenter, mais je ne me rappelle plus en fait comment ça s'appelle. Voilà,
donc le propriétaire du blog est invité à aller réclamer ses
c'est
droits
ça,
d'auteur.
Infogré. Mais je vais aller vite, hein, je vais passer direct à 1953, qui est l'apparition des livres de poche, qui a un peu chamboulé le design des livres, le design sobre, notamment des couvertures Gallimard, qui servaient jusqu'alors de référence, qui est remis en question par l'influence américaine, et qui permet une certaine libération graphique du livre. D'ailleurs, comment surnomme-t-on la collection de la maison d'édition la plus renommée Gallimard ? C'est la collection
Blanche.
Blanche, car ben, les couvertures sont blanches. Dans les années 80, les maisons...
Jeune pipi.
Ouais, des
non,
fois, alors...
Non, jeune pipi, c'est grassé. Alors... C'est plus coquille d'œuf.
Alors, parlez bien dans les micros, s'il vous plaît.
Oui, on est plus sur coquille d'œuf. Voilà. Jeune pipi, c'est grassé. Mais est-ce qu'on doit le répéter une troisième fois ou...
Non, et c'est pas jeune pipi. C'est plutôt beige.
C'est
moche.
Oui, mais ça, à l'époque, ça connotait quand même un certain choix éditorial de...
Un peu élitiste.
Ça reste subjectif, nous disions. Les années 80, les maisons d'édition vont plus loin. Actes Sud, l'illustration mêlée au format classique et aux matériaux de qualité sur papier vergé notamment, crée une connexion à l'iconographie singulière. Peu de temps après, les éditions POL innovent avec une typographie sans empattement, l'agile, qui vient rompre avec cette grande tradition française. En 2002, les éditions Sabine Westpieser, alors je ne connais pas, j'imagine que vous, oui, qui joue avec une couverture rigoureusement typographique et de composition classique, mais pourtant moderne, avec un texte qui devient subtilement image grâce à des touches de couleur. Voilà, entre autres. Donc, je vais m'arrêter là, etc. etc.
Il y a encore plein de choses à dire.
Depuis cette époque. Mais vous pourrez le dire quand vous aurez la parole. D'ailleurs, Élodie, c'est toi qui vas commencer. Oh. Et oui.
Et tout en justifiant pourquoi ce thème.
Et oui. et oui, c'était mon lancement, Élodie. Et à toi l'honneur, vu que c'est toi qui nous a déniché ce thème. Avec un livre qui fait partie de la rentrée littéraire d'octobre, justement. Donc, ça, c'est intéressant. C'est La Dame Blanche de Sergueï Lebedev. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire la couverture, s'il te plaît ?
Oui, alors, c'est Valérie qui a mis ce livre entre mes mains. Et j'avoue que je n'ai pas été emballée particulièrement par la couverture. On est sur une... je pense que c'est une toile. Alors, il n'y a pas la référence. Je ne sais pas de qui a peint ça. Je dirais cette croûte. Alors, donc, du coup, on est sur un fil alors, à linge avec des vêtements qui
On va quand même découvrir que c'est un grand peintre dans pas longtemps. Mais...
Certainement. Non, mais en vrai, je ne sais pas
c'est
du tout.
C'est peut-être un peintre russe, vu qu'il est russe.
Kuno Amiet. Voilà. Je ne sais pas qui est Kuno Amiet. Dit Vacheux. Donc, ça s'appelle la lessive. Hein, cette toile. Et donc, on a du linge qui est en train de sécher sur une corde à linge. Et qui n'est pas... Enfin, non, on est d'accord, hein, on dirait de la peinture à l'huile, mais c'est pas... Un peu de pointillisme, peut-être, je ne sais pas. Voilà, bon, c'est pas très heureux. Je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez,
la forme des manches gonflées par le vent, on dirait des gougouttes. On dirait, voilà.
Des gougouttes, c'est ça.
Je trouve que c'est un peu raté. Un peu plus, mais après, c'est très joli. J'aime bien le fond. On dirait un peu les nénuphars de Van Gogh.
Oui.
Ouais. Non, c'est Monet plutôt. Monet plutôt, oui. C'est ce que je... Quand personne relevait, j'ai...
Continue à vendre des livres. Hein.
Oui, c'est
vends pas de tableau.
Non, mais on dirait de l'art un peu naïf.
J'ai acheté l'histoire de l'art pour les nuls, j'ai vraiment le livre.
Non, mais on dirait de l'art naïf, quoi, en fait. Voilà, c'est pas très... Voilà, le trait est grossier, et c'est pas... On voit les traits de pinceau, c'est pas très heureux. Bref.
Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Est-ce que c'est intéressant ?
Alors, c'est intéressant... pour autant, c'est pas très joyeux. Alors, commencer l'émission là-dessus, c'est un peu raide. Ça se passe, c'est l'histoire qui l'histoire se déroule déjà dans le Donbass. On est
En
2014. Et alors, comment vous expliquer ? L'histoire commence déjà. Elle est campée avec l'histoire de Marianne, qui est en train, enfin Mariana, qui est en train de mourir. Et Mariana, c'est la blanchisseuse. C'est pour ça qu'on l'appelle la Dame Blanche. C'est une femme de poigne qui a dirigé sa blanchisserie de la mine de charbon d'une main de fer. Et elle a consacré sa vie à blanchir le linge, à le laver plus blanc que blanc. Il y a un gros contraste qui est fait, et je m'en suis rendu compte là tout à l'heure, c'est les éditions Noir sur Blanc qui publient ce livre, et il y a un gros contraste, un gros travail parabolique qui est fait entre le noir et blanc, le bien et le mal dans ce livre. Et donc, elle lave plus blanc que blanc, et elle travaille donc dans un terril. Et donc, c'est elle la gardienne des lieux, et elle lave le linge, elle frotte toute la journée. Et le livre commence avec sa fille Jana qui vient à son chevet, et elle est en train de mourir. Et elle qui a consacré toute sa vie à laver du linge, à rendre les choses propres, d'une propreté immaculée, et ben elle souille ses draps donc de sang, d'excréments, de pus, de tout ce qu'on veut. Et donc... La fille arrive et donc se rend compte qu'il y a un tournant qui se fait. Et avec la mort de Mariana, vont se dérouler plein de choses. Il faut savoir que c'est un livre qui est assez compliqué à... comment dire ? Il se passe en 5 jours et il est à 4 voies. Donc on a premier jour, deuxième jour, enfin il est chapitré comme ça, sur les 5 jours. On a le Jana qui parle. On n'a que 4 personnages dans tout ce livre. Il n'y a pas d'autres personnages du tout. On a le voisin de Jana, qui est un Ukrainien qui est parti rejoindre les Russes après avoir commis un meurtre et qui revient et qui n'a qu'une espérance, c'est de l'espionner et de la violer. On a... Oui, c'est pas une bonne personne, je vois. Levez les yeux par l'aile. Ah non, mais c'est très glauque, hein, que
ah oui,
ce soit clair.
Glauque, hein.
C'est glauque, c'est rude. L'autre personnage, c'est un sergent, enfin un militaire qui est là, qui est dans l'histoire. Bon. Et la quatrième voix qui parle, c'est la mine elle-même, la mine, le terril. Et cette mine de charbon, qui a sa voix propre dans le récit, elle a un secret, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des milliers de Juifs qui ont été ensevelis là-dedans. Et il y a un passage qui est vraiment horrible. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a eu des milliers de morts qui ont été enterrés dans cette mine, mais que par-dessus, par-dessous eux,
Il y a eu d'autres exactions qui ont été commises tout au long de l'histoire. Et ils expliquent qu'en fait, on a des strates de persécutions et de meurtres qui se sont déroulés tout au long de l'histoire et qu'on a enterré cette histoire au fond de cette mine.
Ok, merci Elodie.
Non, mais pour le coup, alors
effectivement, t'as plombé l'ambiance.
On peut pas forcément être d'accord. On peut ne pas forcément être d'accord sur le fait que la couverture est moche, mais par contre, on ne s'attend, si on ne regarde que la couverture, pas une seconde, on s'imagine.
C'est ça.
L'histoire qu'il peut y avoir dedans, quand même.
C'est ça, quand même.
C'est atroce.
Oui, ça c'est intéressant.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment, enfin c'est cruel, c'est très dur comme propos. Vraiment, j'ai vu. on peut dire la gênance. J'ai vraiment été mal à l'aise pendant toute cette.
Fait le style de Jules, le symbole de Jules.
Je montrais à Thomas, je dis, on peut le dire dans le livre La Bonne Mère de Di Matteo.
Ah, on va pas, on reparle. Ouais.
C'était une conversation privée avec Thomas.
Non, on a tout entendu.
Donc voilà, bon, c'est un livre qui est assez dur, qui est âpre.
Mais il a de bonnes critiques quand même.
Oui, il se lit bien. Mais pas pendant une semaine de dépression.
Voilà. Est-ce qu'il est en cours pour des prix, Valérie, tu sais, ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu nulle part.
Ah, j'ai lu un article du Monde qui l'a encensé. Alors, depuis 2022, il ne peut plus retourner en Russie, ce pauvre Sergueï.
Voilà, il s'est exilé en Allemagne.
Ouais, il est d'une famille de géologues, donc je pensais qu'il parlerait de géologie, mais alors pas du tout.
Quand même, puisqu'il y a quand même une grosse partie où justement on est dans ces tranchées et dans ces fosses, où justement ces corps se calcifient et deviennent du minerai. Et du coup, il parle de pétrification. Okay. Si, donc on revient un peu
c'est
à ça.
C'est le moment où il a pris du plaisir à écrire.
Voilà. C'est bien écrit, hein, mais c'est glauque, quoi.
Ok, très bien. Rien à dire de plus sur cet éditeur qui est quand même édité en 21 langues, donc qui est un écrivain extrêmement connu. Pauline, Max de Sarah Cohen-Scali. Alors, tout comme Elodie, je vais te laisser nous présenter la couverture, vu que c'est le thème de cette émission.
Alors, je me suis un peu arrangée avec le thème. J'ai pas pris une couverture moche, j'ai pris une couverture qui dérange un peu.
Ouais, ça dérange un peu.
Voilà. Alors, je vous l'ai décrit. Sur fond rouge, on a l'ombre d'un fœtus avec tout un tas de mesures. Et ce fœtus a à son bras un petit brassard nazi. Donc, et en plus, il faut savoir que ce livre sera rangé au rayon jeunesse.
Bien sûr.
Donc, oui. Encore plus dérangeant si voilà. Donc,
et la typo du titre est gothique.
Voilà. Oui, elle est dans le style, dans toute la com nazie, quoi. On est en plein dedans. Donc voilà, doublement gênant, surtout dans l'idée qu'on est sur une collection jeunesse. Donc on est en publication 49 pour la jeunesse. On s'adresse aux ados et d'ailleurs l'auteur Sarah Cohen-Scali est une auteure jeunesse ultra prolifique. Qu'on conseille en tant que conseil jeunesse à tous les ados sans problème. Celui-là, on le conseille avec un gros accompagnement, je pense, ce bouquin, parce que si la couverture est malaisante, le contenu, lui aussi. Le pitch, on est en 36, on est dans l'Allemagne nazie, et on a Max, un fœtus. Alors, qui s'adresse à nous et qui nous annonce qu'il est le renouveau de l'Allemagne, du monde, hein, pour lui, hein, puisqu'il va naître dans un Lebensborn. Un Lebensborn, c'est les lieux d'élevage, hein, franchement, le mot, c'est élevage des futurs ariens. Donc, né de couples qui ne souhaitaient pas être en couple, sélectionné, blond, fort, intelligent, yeux bleus, mesuré, pesé, enfin, analysé sous toutes les coutures pour faire la race la plus pure possible. Et donc, lui se prépare en plus à naître le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler. Et il y arrive. Et là,
La fête, là.
Voilà, il est heureux. C'est-à-dire qu'on a un nouveau-né qui appartient totalement à la race aryenne, qui est totalement, qui est dans l'esprit, pour lui, il est l'avenir du monde, il va sauver la planète, et donc c'est un livre clairement sur l'embrigadement, mais cet aspect-là est hyper intéressant parce que c'est toujours donc ce petit, alors là le livre s'appelle Max, mais dans l'histoire, il s'appelle Conrad. Max, c'est le petit nom que sa maman lui avait donné, qu'évidemment, on ne lui a pas gardé, puisqu'on ne garde rien de la maman. Lui-même se fiche de sa maman. Il est le fils du Führer, et c'est tout. Voilà, donc, tout le long du livre, il nous explique à quel point il est convaincu de la doctrine nazie et de tous ses bienfaits, etc. Il ne cache rien à la violence de ce régime, à la fois sur les conditions dans lesquelles les enfants des Lebensborn sont conçus, des viols souvent collectifs, des horreurs absolues comme voilà. Et donc, lui, il va continuer, il va faire sa vie uniquement pour la race aryenne et la préservation de cette race. C'est extrêmement dérangeant. C'est extrêmement malaisant et c'est très dur de se dire comment je peux mettre ça dans les mains d'un adolescent qui pourrait ne pas le lire jusqu'au bout, parce que évidemment je veux pas spoiler, mais évidemment il y a un moment où il va se questionner, et heureusement, mais très franchement, il est tellement cet enfant totalement brigadé, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, il va participer aux enlèvements de petits Polonais qui vont être triés, éventuellement envoyés dans des camps. Et les mamans, des mamans de ces enfants vont essayer de venir les sauver. Et lui, il va dénoncer les mamans parce que pour protéger les enfants. Parce que ils peuvent pas retourner avec leurs horribles mamans polonaises. Vraiment, il faut pas qu'elles repartent avec, parce qu'ils seront plus heureux eux à grandir dans les jeunesses hitlériennes ou ailleurs, ce qu'ils n'imaginent pas. Mais ceci dit, voilà. Donc c'est très perturbant, mais en même temps, j'ai vérifié, hein, c'est historiquement tout à fait pointu.
Mais c'est, si on n'a pas envie de lire Max, on peut aussi lire la BD qui s'appelle Lebensborn, qui raconte vraiment la même chose. Donc, et c'est pareil, tiré d'une histoire vraie. Je cherche le nom de l'autrice, c'est Isabelle Maroger, et qui raconte, elle, comment elle a découvert quel était le fruit d'un Lebensborn. Oui. Et voilà. Et du coup, c'est un roman graphique, donc ça, c'est peut-être plus facile à digérer. Et c'est rigolo parce que la couverture de Lebensborn, on voit le lieu où elle a été conçue, et il y a écrit Lebensborn avec les lettres gothiques, pareil. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Max quand on le lit.
Alors, savez-vous combien de prix littéraires a reçu ce livre? Celui qui trouve un prêt, je lui donne la wildcard pour la prochaine fois. Allez, 7. Elodie, 7, très bien. Pauline, tu ne regardes pas, s'il te plaît, derrière.
On va dire 4.
Ok, 4. Valérie.
48.
Ok. Thomas.
Moi aussi, je vais dire 0.
Ok, 0.
Moi, j'étais comme Popo, je pensais 4.
C'est 12. Prix littéraires, le prix sorcière le prix sorcière catégorie roman pour adolescents, le prix jeunesse des libraires du Québec, etc., etc. Elodie, tu es la plus près.
Chouette.
Ouais. Pour autant, tu n'as pas gagné.
Je comprends, parce que pour une fois, je trouve qu'on s'adresse aux adolescents. Alors moi, je dirais quand même, il faut attendre qu'ils aient travaillé cette période. Donc pour moi, c'est à lire à partir de la troisième, sauf enfants, ados passionnés par cette période. Et ça arrive.
Ah oui, il y en a.
Oui, on en rencontre beaucoup. Ouais.
C'est peut-être plus pour les lycéens, c'est pour ça que ça.
Ouais, voilà, pour moi, fin de collège, début lycée. Et en même temps, voilà, c'est une réalité qui a existé, mais avec un... Voilà, c'est très dur. C'est très, très, très dur.
Donc, c'est tout écrit à la première personne.
Oui. C'est Max qui parle tout le long du livre et qui parle en grand convaincu de...
Et qu'est-ce qui le fait réfléchir? C'est quoi le...
Une rencontre.
Une rencontre.
D'accord. Voilà, il va rencontrer au sein des jeunesses hitlériennes. Non, pas
une petite
fille.
Copine. Ah,
un garçon.
D'accord.
Un garçon blond, aux yeux bleus, juif. Et là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment c'est possible. Et fort, et donc, comme ce n'est pas possible, forcément, il va se questionner, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà.
Et tu disais que c'est une autrice connue dans le...
Ouais, la littérature jeunesse, oui.
Mais avant, elle faisait des choses un peu similaires, ou là, c'est un peu étonnant qu'elle fasse ça.
Alors, elle a fait dans l'historique. Après, elle est ultra prolifique. Je ne sais pas combien de bouquins elle a pu écrire.
Une quarantaine de romans et nouvelles pour la jeunesse, mais aussi pour des adultes, en particulier des romans noirs. Donc, elle a aussi écrit sur le pseudonyme de Sarah K. Elle est titulaire d'une licence de philosophie. Elle a suivi des études d'art dramatique avant de commencer à écrire pour les enfants.
Ouais, j'ai quelques titres d'histoire de vie.
Et c'est une Française,
historique.
Qui vit à Paris.
Ouais. Après, c'est pas son thème de prédilection, cette période-là. Non. elle est hyper prolifique et variée dans ses thèmes.
Donc c'était peut-être de s'adresser à ce public-là pour...
Oui, c'est ça, la démarche est hyper étonnante et osée et réussie, pour le coup. Ouais.
Ok, merci Pauline. Bon, ça reste un peu glauque, hein, alors je vais relever le niveau. La démarche aussi oui, très intéressante de ma part, c'est Du pain et des chats d'Alexandre Géraudy. Alors,
décris-nous ça.
Alors, rapidement, hein, je vous parle de ce formidable ouvrage. Alors, la couverture qui est d'ailleurs plus kitsch que moche, je trouve. Hein, où on voit un chat avec un pain de mie sur la tête devant une genre de nappe à carreaux rouge et blanche digne des tablés de nos grands-mères.
Avec une tranche de pain sur la tête.
Avec une tranche de pain sur la tête. Et oui, parce que c'est du pain et des chats.
C'est pas ses vrais yeux au chat, hein. C'est quelqu'un qui a dessiné par-dessus, t'avais pas vu ?
Ah mince, et pourtant on dirait. Hein. voilà, mais écoutez, vous auriez déjà fini de lire le livre si vous y aviez commencé quand j'ai commencé ma chronique, parce qu'il est très court et qu'il n'y a pas beaucoup de textes. C'est complètement absurde. Voilà, il est dit en quatrième de couverture que c'est un livre idéal pour les boulangers, les chiens de boulanger, les chiens boulangers, et aussi les souris, les rats, les mulots, les canaris, les poissons rouges, les mouches, tout un tas d'autres trucs, comme le papier peint par exemple. Bref, c'est le livre idéal pour tous ceux à qui d'habitude on ne pense pas. Méfiez-vous de la personne qui a osé vous l'offrir. Alors ça fait rire Pauline. Voilà, donc il y a des photos. Alors c'est des photos atroces, on dirait que c'est pris sur Internet, un clic droit. Tiens, je vais prendre celle-là.
On dirait des vieilles photos des années 70.
C'est ça. Et il y a une comparaison à chaque page entre les chats et le pain. Les chats sont brutaux, donc on voit un chat qui est en train de griffer une dame. Et à côté, le pain aime la tendresse avec un boulanger qui tient
oui,
un
tout
pain.
Tout le monde caresse sa baguette, oui.
Et
voilà.
dis donc, voilà, et c'est ça tout le long. Voilà, c'est complètement absurde.
J'ai une question parce que tu as le doigt dessus, mais tu peux nous donner le nom de la maison d'édition ?
Alors, c'est très compliqué. Je n'ai plus le livre. Je vais laisser Thomas qui l'a le donner. Oui, c'est alors FLBLB, c'est ça ?
Est-ce que ça se prononce comment je parle ? Ouais.
FLBLB.
Bleu, bleu, bleu.
Non, mais il doit y avoir un truc. Dis-nous, Valérie.
Non, parce que j'attends que tu lises.
D'accord. Voilà, Alexandre Géraudy, c'est un auteur de bande dessinée. Il est né à Limoges, tiens donc. En 1986, il a étudié la bande dessinée et l'illustration à l'École supérieure des arts de Saint-Luc. Et donc, il y a une chute à la fin que je ne vous raconterai pas. Je vous laisserai lire ce formidable livre qui est en vente à la librairie La Livrerie. Il n'y a qu'un exemple.
Tu me l'as volé.
J'adore cette phrase. Les chats sont politiquement rétrogrades.
J'ai dit comment est le chat.
Il en voit quoi ? C'est quoi la photo ? C'est un chat qui a une petite moustache d'Hitler. Voilà. Et à côté, nous avons quoi à côté, Élodie ?
Et le pain est manifestement de gauche avec un gris pain avec la tête du Tché dessus.
C'est voilà. Absolument
c'est
improbable
quoi.
Comme
c'est, ça,
c'est hallucinant ce truc.
Voilà, donc fini la jeunesse hitlérienne et la guerre dans le Donbass, s'acheter du pain et des chats de toute vitesse. 19h23, allez, on va accélérer. J'en étais à qui Valérie. Tu as choisi...
Allez, la récréation est finie, ça suffit maintenant.
La récréation est finie de Dario Ferrari. Donc...
Oui, c'est le titre du livre. Hein.
Ça, oui. Pas présente-nous la couverture.
Alors, moi, je n'avais pas bien compris le thème. Hein. Donc, j'ai menti sur le WhatsApp. Je vous ai envoyé un livre horrible, affreux, en disant je vais parler de celui-ci, que je n'ai pas lu.
Et alors, elle a monté un putsch, Valérie,
ouais,
mais toute seule.
Non, c'est une rebelle. Non, tu étais d'accord avec moi.
Bon, je suis accordé si, si. Ton...
Si. Dimanche, tu m'as dit...
Ouais, c'est vrai, voilà. J'ai dit ça.
Okay. Non, en fait, j'ai pris des livres dont les couvertures... c'est subjectif, mais je sais que tu viens de dire... Ah oui, t'as raison, elle est moche.
Bah moi, je la trouve moche.
Mais ouais. Moi, je trouve ça plutôt joli, en fait. Et je trouve que le
tout ça me fait penser à du Magritte, un peu. Mais j'aime bien Magritte.
C'est un portrait d'un homme qui se regarde dans un miroir. Mais en fait, ce qu'on voit dans le miroir, c'est l'homme vu de dos aussi, en fait. Donc, ça peut être vite sans fin, ce genre de choses. Donc, c'est, voilà. Mais j'avais mal compris. Je croyais que c'était les couvertures qui nous donnaient envie de les lire. J'assumais pas du tout le fait des couvertures moches. J'avais trouvé un vite fait.
C'est pas toi qui avais répondu « Ah ouais, chouette, bonne idée ».
Oui, mais après, je me suis dit que potentiellement, on était entendu
par des gens.
Elle a peur
de se faire des ennemis, en fait. Elle n'assume pas.
Non, mais d'autant plus qu'il y a des livres... Je crois que les livres que j'aime beaucoup, dont j'aime pas les couvertures, Le bonheur de l'intérieur dépasse le bonheur de l'extérieur. Mais je peux, j'assume pas.
Après, non,
j'assume
pas. C'était vraiment l'idée de cette émission de dire on donne notre chance à des livres qu'on n'aurait pas ouverts naturellement.
Oui, mais tu vois, je citerai pas qui, quand, comment, pourquoi, mais un auteur avec qui je discutais de la couverture de son livre, j'allais lui dire bah, tu sais, j'ai envie d'en parler parce que je trouve la couverture moche. Commence à me dire puis génial, quoi, cette couverture, c'est tel artiste, tout ça. Non, je fais comment, moi, après ? Non, je peux pas. Je ne sais pas mentir, donc je préfère ne pas faire. Voilà, donc la récréation est finie. C'est absolument merveilleux pour qui a les mêmes goûts que moi au niveau des couvertures. Élodie n'aime pas trop, mais l'important...
Est-ce je trouve que ça un peu tristoun, ça ne donnerait pas envie de le lire.
Oui, mais pourtant, ce livre est loin d'être tristoun. Mais effectivement, on pourrait croire, quand on commence le livre, que ça va être tristoun parce que notre héros, Marcello Gori, il a 30 ans, il a fini la fac, mais il continue un peu la fac, il vivote, il est là, il vit sa vie à la légère, il a une femme qui gagne bien sa vie, donc il fait des petits boulots par-ci, par-là. Et en fait, il va quand même se dire qu'un jour, il est temps, il arrête pas de se faire gronder par son père, il a 30 ans quand même, le bonhomme. Hein. Comme quoi, ben, il faut vraiment qu'il arrête d'être désœuvré comme ça. Et il se dit, ben, allez, je retourne à la fac, donc ça se passe dans une petite ville à côté de Pise. Il retourne passer son concours de doctorat en lettres à l'université, que les directeurs de thèse appellent le doctoloto, parce qu'ils font un loto avec tous les doctorants pour voir qui va faire quoi. Et lui, en fait, c'était pas prévu qu'il soit pris par ce directeur de thèse, mais en fait ça va être que la personne qui devait être prise part faire sa thèse au dernier moment avec le concurrent de toujours de notre héros Marcello, et il va se retrouver en fait repêché. Donc, dans la vie déjà d'un peu loser, il se retrouve quand même repêché un deuxième choix. Et voilà. Et donc, il pense qu'il va pouvoir faire la thèse qu'il souhaite. Mais en fait, pas du tout. On lui impose donc le sujet de sa thèse. Et on lui dit, il va falloir que tu fasses une thèse sur Tito Cella. Et là, il dit, mais Tito Cella, c'est un auteur. Oui, il a écrit 3 livres. Il est de mon village. Mais et quoi d'autre ? Donc là, c'est la première partie où il va aller chercher des infos un petit peu sur cet auteur. Donc là, on se rend compte de la concurrence dans les universités. Mais c'est assez hilarant parce qu'il est il est à la fois très gauche et il a une façon d'aller à la pêche aux infos qui est toujours très maladroite. Donc par moment on rit, mais vraiment on rit aux éclats tellement il est maladroit dans sa façon d'être. Après, il y a une deuxième partie où il découvre vraiment qui est ce Tito Cella avec c'était un révolutionnaire, un anarchiste qui a très vite été, de par ses positions politiques, et mis en prison. Et une fois qu'il était en prison, c'était pendant les années de plomb, dans les années 70, et il s'est retrouvé à écrire des livres. Donc lui, il connaissait ses livres, mais là, on arrive sur la troisième partie. Il y a un livre, c'était son autobiographie, où on comprend mieux pourquoi ce héros a écrit tous ses livres. Il a écrit son autobiographie qui s'appelle La Fantasima. Et La Fantasima, c'est un livre que personne n'a jamais retrouvé. Et là, notre héros, il va devenir complètement gaga, complètement fou. Il va se faire une quête d'aller chercher donc cet ouvrage. Et en fait, la troisième partie, ça va être la dualité entre eux. Et là, ça devient un peu sérieux. On arrête, la récréation est finie. On a vraiment une dualité en fait entre Tito Cella et notre Marcello. Et les deux vont se faire écho. Pourtant, ils sont jamais croisés puisqu'un est mort et l'autre est en pleine forme. Et on va découvrir en fait quel est le point commun entre nos deux auteurs et notre étudiant et cet auteur mort. Ça donne un livre absolument délicieux. C'était vraiment un plaisir de le lire. Il y a plein de phrases qui ont été empruntées à Proust, il le dit, hein, c'est pas moi qui l'ai découvert. Et il y a vraiment un effort autour de la narration, de la littérature. C'est satirique, beaucoup, tout au long du livre. Enfin, c'est vraiment un livre qui est à lire.
C'est sorti il n'y a pas longtemps, là.
Oui, c'est rentrée littéraire. Alors,
c'est rentrée littéraire aussi.
J'ai aucune idée de la date. Honnêtement, j'ai pas regardé, mais c'est sur la rentrée littéraire de 2025, ouais. Mais c'est magnifique, et il s'est inspiré pour la fin de son livre, mais on peut le dire aussi parce que c'est dans le quatrième, il s'est inspiré du Vicomte Pourfendu de Calvino.
Ah oui, Calvino.
Voilà. Donc déjà rien que ça, en disant parfois on se sent incomplet et on est tout simplement jeune.
Très Très bien, merci Valérie. On va faire une pause musicale. On retrouvera le livre de Thomas après. C'est dommage, je t'ai pas prévu de présenter de livre, Marlène, aujourd'hui. sinon, on aurait pu t'entendre en deuxième partie d'émission. Allez, Lupé Fiasco, Daydream, tout de suite. On revient juste après.
I fell asleep amid the flowers. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. On a beautiful day. Daydream. I dream of you amid the flowers. For a couple of hours. Such a beautiful day. Such a beautiful day. From behind my giant robot's eyes, I keep him happy 'cause the mic fall out if he cries. Scared of heights, so I might pass out if he flies. Keep him on autopilot 'cause I can't drive. Rooming up the one, I tell my homies they can't ride. Unless we're sitting on the shoulders, but that's way too high. Let's try not to step on the children. The news cameras filming this walking project building. Now there's hoes selling hoes, like right around the toes. And the crackheads beg at about the lower leg. There's crooked police that's stationed at the knees. And they do drive-bys, like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House. Just a
daydream. I fell asleep amid the flowers.
I fell asleep beneath the flowers.
For a couple of hours.
For a couple of hours.
On a beautiful day.
On a beautiful day.
Daydream.
Daydream.
I dream of you amid the flowers.
I dream of you amid the flowers.
For a couple of hours.
For a couple of hours.
Such a beautiful day.
Such a beautiful day.
Now come on everybody, let's make cocaine cool. We need a few more half-naked women up in the pool. And hold this Mac 10 that's all covered in jewels. And can you please put your titties closer to the 22s? And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with this blunt in your hand. And now hold up your chain, slow motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But not too loud 'cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves while he lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like Abu Ghraib. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was
daydream.
Allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais faire un mea culpa, je crois.
Oui, je voulais faire un
mea culpa. Pourquoi ?
Non, là, j'étais en colère après Elodie qui critiquait les couvertures. Donc, je disais, mes livres préférés quasiment venaient des éditions du sous-sol, dont Marlène va peut-être parler, vu que finalement, elle a un livre.
Ah, mais elle a un livre !
Non, je voulais faire mon mea culpa parce qu'a priori, là, je vous ai perdu pendant la présentation. Et je voulais dire que tout au long de ma vie, je me le suis répété à chaque fois, que j'avais besoin de justifier mon inefficacité chronique. Mon éternelle incapacité à aller au bout des choses, c'est la jeunesse, je me disais. Ça passera. Et alors, je serai moi aussi complet. Vu que je suis incomplète donc, dans mes phrases, ça veut dire que je suis encore jeune. Et je suis désolée de vous avoir perdu, mais ce livre est vraiment, vraiment fabuleux.
Oui, mais après, tu ne nous as pas vraiment perdu. Moi, j'ai vu un point sur le mur, j'ai commencé à le fixer.
Toi, tu n'étais pas perdu, tu étais sévèrement égaré. Ouais.
T'as coupé le micro. Ce point sur le mur m'a plu et je me suis...
Tu as coupé le micro, tu m'as dit, purée, Val, tu nous as perdu.
Allez, Thomas, Fanny Deschamps, vous n'allez pas avaler ça. C'est le Tour des France des pollués. Alors, cette pochette qui date de
Gélu. Non, on pense qu'il a triché, Thomas, quand même.
Pourquoi ouais, il aurait triché?
Parce qu'il a pris quand même une couverture qui a au moins 30 ou 40 ans.
Et alors
c'est sorti en... Ah bah...
Vas-y, dis-nous.
Non, bah, un jeu, le plus proche, j'ai pas une bière. C'est nul, chercher...
63. 67
76.
74.
69.
73.
Bravo, tu peux avoir du vin plutôt.
Ah, t'as la wildcard.
Ouais, du vin aussi.
Ah, j'ai la wildcard la prochaine fois.
Non, parce que c'est un peu une wildcard.
Attends, c'était moi la plus près à tout à l'heure.
Merci. Un an près, j'ai dit.
Non, c'est bon, j'ai la wildcard. Dans la même, c'est trop tard.
C'est trop tard. Un an près, t'as 17, c'était 12. Donc c'est un peu que à la moitié.
Bref, Thomas.
Bref, Fanny Deschamps. Alors, pour le coup, j'ai pas vraiment triché parce que je l'ai découvert. Enfin, le hasard a fait que je l'ai acheté il y a à peine plus d'un mois. Donc en fait, c'est aussi, pour moi, c'est assez récent qu'il est dans. Et je l'avais, je me suis dit, bah, en plus, il y a cette émission-là. Et effectivement, la couverture est bien moche, je peux en parler.
Ça sent le vide-grenier, ça.
C'était à la Grande Bourse, qui est l'endroit où on peut acheter des livres à côté de Grand Place à Lille. Ah. Voilà, il y a un endroit qui est très joli bon d'ailleurs.
Ouais, ça nous fait un peu de chemin quand même.
Ouais. Un peu de chemin.
J'y vais le samedi.
Mais par contre, le sujet a l'air absolument passionnant.
Oui.
Et je vais parler du sujet, mais la couverture, c'est une chope de bière avec à l'intérieur tout plein de choses, des explosions nucléaires, des poissons morts, des usines, des avions, etc. etc. Pas du plus beau goût, exactement aussi comme l'arrière. Ouais.
Déjà une couverture kaki. Voilà.
C'est dégoûtant. Alors, je vous invite aussi à aller voir. Elle a sorti, c'est sorti chez Albin Michel. On voit une cuillère pleine de détritus. C'est aussi bien dégueulasse.
Oui, l'autre couverture également est pas très belle. Donc, dans tous les cas, voilà, c'était la DA de l'époque. Et donc, c'est une journaliste qui, d'ailleurs, est devenue journaliste sur le tard. J'ai appris ça à 39 ans, comme quoi on peut être journaliste assez tardivement, qui était journaliste pour plusieurs magazines, comme à l'époque François, etc. Et qui a fait, en fait, c'est l'écologie avant l'heure. Et j'ai aussi choisi ce texte pour une autre raison, c'est que dans quelques jours, c'est la COP30 à Belém, qui sera à partir du 10 novembre. Donc peut-être que je rattache un peu
tu
les wagons.
Tu vas aller au Brésil, c'est ça?
Moi, je n'irai pas au Brésil.
Non, tu pollues si tu vas au Brésil.
Mais tu crois qu'ils y vont comment? Ils y vont en radeau tout d'un
Camille Etienne, il va en...
Oui, mais lui, oui, mais...
En radeau.
Ouais. À moteur. En radeau à moteur.
Et donc, effectivement, je trouvais ça curieux de me dire que je savais qu'il y avait des écologistes dès 73, mais c'était intéressant de voir. Après, dans le titre, tout est dit. Hein, le Tour de France des pollués, c'est qu'elle va faire son enquête où elle va se rendre dans la vallée de Maurienne pour parler d'usines qui polluent la vallée savoyarde. Elle va se rendre aussi pas loin d'ici, dans les gorges du Verdon, pour aller voir comment l'armée occupe un terrain et pareil, pollue totalement ce terrain dans les gorges du Verdon. Elle se rend dans les Landes, Mantes-la-Jolie. Également, ça parle de Fessenheim. En Alsace, déjà à l'époque, et du mal atomique. Bref, elle fait son tour d'horizon, mais c'est vrai que ça m'a un peu rendu triste de me dire qu'il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui.
On le savait déjà.
Qui alertaient, et
oui, mais lui,
très
lui,
peu
lui,
de choses ont changé. Ben oui. Et justement, je veux lire peut-être un petit passage qu'elle dit dès le début, en fait, dans son introduction, où elle parle, elle dit « Au fond, les gueulards de l'environnement sont optimistes, les désespérés pessimistes, vous les entendez pas, ils s'économisent pour durer douillement jusqu'à la fin du monde, derrière un rideau d'arbres si possible. Nous espérons sans doute, en la contagion de notre amour pour le miracle de l'herbe jaillissant un jour sur une bille de l'univers. Oui, je pense que nous croyons tous au pouvoir final de notre sincérité et à la force de notre colère qui va croissant. Il en est en train de pousser des cornes aux brebis du Larzac et à tous les tondus d'ailleurs. Ceci est pour vous dire que si j'ai écrit une série noire, c'est par optimisme. » Et là, elle est décédée en 2000, donc je ne sais pas si elle serait toujours aussi optimiste en 2025. Oui, Valérie.
T'as dit douillement ?
Non, j'ai dû faire une faute en le disant, effectivement.
Non, mais j'aurais adoré ce mot.
C'était douillettement.
Oh, je préférais douillement, c'était plus mignon.
Effectivement, j'ai lu trop vite et c'était douillettement. Et donc, Alors, je ne sais pas si justement pour déprimer, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut lire ton texte ou celui-là ? Parce que c'est vrai que ça fait... Alors, on voit quand même que des choses ont été faites. Ça s'inscrit aussi, je crois que c'est en 71, c'était la première fois qu'il y avait un ministre de l'écologie en France. Donc, Elle en parle au tout début en disant qu'il sert, il est là, il sert à rien et que rien n'a changé en 2 ans. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, moi en tant que jeune, de lire tout ça, de se rendre compte qu'on savait déjà beaucoup de choses à l'époque. Oui, des choses ont changé, on ne peut plus déverser, encore que, ces déchets totalement impunément dans les cours d'eau, comme à l'époque.
Ça pouvait se faire prendre.
Ça pouvait se faire. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, en tout cas, ce sujet. Voilà,
si... Un livre étonnamment moderne, du coup.
Oui, et ce qui est bien, en plus, c'est que j'ai pas tout lu, mais en fait, vu que c'est par chapitre de choses, en fait, je lisais ce qui m'intéressait sur Biscarros, Lande, à la Bretagne. Là, elle va parler de tout ce qu'est la pollution de la côte ouest, voilà. Et ça peut se lire comme ça, et ça se lit très bien. C'est aussi marrant de voir qu'il y avait déjà une... J'ai l'impression, moi, qu'à l'époque, les gens étaient tous dans un langage très châtié, ou en tout cas, mais voilà, vraiment, elle le dit, bah, dès le début, les gueulards, etc. Il y a un côté très, très écrit, très... un peu radical dans son écriture, qui fait plaisir de voir que, voilà, en 71, 73, il y avait déjà des gens qui disaient attention. Et dans 10 jours, c'est la COP30.
Voilà. Et pour info, elle était issue... vu qu'elle est décédée, elle était issue d'une lignée de compagnons du Tour de France, maçon, ébéniste, tapissier. Elle travaillait, elle, dans l'industrie textile. Et c'est un grave accident de montagne qui l'immobilise pendant plusieurs semaines et qui la décide de changer de métier à 39 ans.
Oui, elle a été après plusieurs rédactions, il me semble.
Oui, oui, elle a été...
Elle, François...
Elle a été Elle, Le Point, Le Nouvel Observateur, François, un peu partout. Merci beaucoup, Thomas. Marlène, je rigolais, hein, tu as bien sûr un ouvrage à nous présenter de Sarah Bernstein, un ouvrage qui s'appelle « Obéissante et assassine » avec un petit oiseau tout mignon qui dort sur la pochette.
Non, pas du tout, un oiseau mort, tout court.
Ah, il est mort.
Que je trouve moche. Voilà, donc, moi, la couverture moche, c'est moche. Voilà, c'est une photographie, hein, donc... Valérie M, moi.
Peut-être qu'il le méritait.
Voilà. Alors, non,
peut-être
alors là...
peut-être très méchant, cet oiseau.
Peut-être, je ne sais pas.
C'est vrai, peut-être qu'il volait de l'argent aux pauvres.
Oui, peut-être.
Ceci dit, pour répondre au thème, moi, j'ai trouvé que ça rentrait complètement là-dedans. Je n'aurais jamais ouvert ce livre, soyons clairs. Je l'ai ouvert et j'ai bien aimé, même si c'est hyper déroutant. Voilà. Donc, placer un peu, donc, vu que tu ne sais pas du tout de quoi je parle,
non,
forcément.
Je n'ai pas vu ton message.
voilà. Donc là, en fait, c'est une autrice qui est partie d'un épigraphe d'une artiste peintre portugaise, de Paula Rego, qui dit « Je peux les rendre tout à la fois obéissantes et assassines ». Et tout le livre va tourner autour de ça. Donc, l'héroïne dont on ne connaît pas le nom, dont on ne sait pas dans quelle époque elle vit, dont on ne sait pas où elle est très exactement et dans quel pays ça se passe, etc. On ne situe absolument rien. Donc déjà, pour planter le décor, c'est vachement facile. Parle, elle, à la première personne et du coup, va rejoindre son frère et va devenir, en gros, sa servante, comme elle a été toute sa vie la servante de ses autres frères et sœurs et de sa famille. Donc, elle est asservie, elle fait le linge, elle fait le ménage, elle l'habille, elle le lave, enfin, elle fait absolument tout. Donc, lui, il est pourri, riche, voilà, il a un grand domaine. Et elle se retrouve donc chez lui, dans un endroit où elle n'arrive pas à communiquer avec les gens, puisque c'est un langage qu'elle ne comprend pas. Où on ne sait pas, donc toujours pareil, impossible à savoir. Et donc, elle est asservie à lui. Son frère va partir et bizarrement, elle va oser sortir de la maison, elle va oser aller dans le village, elle va oser rencontrer des gens, etc. Et là, tout bascule. Au moment de son arrivée, il y a une mystérieuse crise bovine, donc ils sont obligés de tuer tous les bœufs, les cochons font n'importe quoi, les truies écrasent tous leurs petits. Bref, les enfants se planquent, tout le monde sort les croix, donc on se dit « Ah, catholicisme peut-être, ouais, on ne sait pas, bon, voilà. » Et en fait, elle va dans la forêt, elle fait des petites poupées vaudou, elle fait des petites choses qu'elle offre aux gens, parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec eux. Et eux, ils ont plutôt, on va dire, l'impression qu'elle les envoûte. Voilà. Donc on est dans une espèce de une espèce d'atmosphère comme ça où on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors elle est obéissante, elle est asservie, elle dit oui à tout. Donc là, par le biais de son frère, elle va faire toutes les tâches pourries de cette ville. Donc ils vont lui demander par exemple de s'occuper de tout ce qui est vider maintenant les étables qui sont vides, de tout nettoyer, de tout rendre propre, etc. Donc elle rend service à la communauté, elle rend service à son frère. Et on se dit, bon ben voilà, elle est obéissante, elle ferme sa bouche, et voilà, donc c'est assez sombre comme ça. Mais finalement, dans le roman, on ne sait pas trop s'il n'y a pas un revirement de situation, s'il n'y a pas une espèce d'ambivalence comme ça, et où en fait elle fait de la résistance, et finalement, est-ce que ce n'est pas elle qui mène le jeu? Est-ce que ce n'est pas elle qui décide de certaines choses? Donc on est dans une atmosphère qui ressemblerait un peu au thriller, qui est hyper déroutante, et même la chute est déroutante, parce que finalement, ben, on ne sait pas trop. C'est très... Voilà. Et comme j'aime bien l'ambiance thriller, je me suis dit, ah, c'est quand même sympa. L'écriture est sympa. Et c'est, voilà. Et c'est toujours un doute comme ça. On ne sait pas trop où on va et on ne sait pas trop si finalement elle est obéissante ou effectivement elle est assassine sur certaines choses. Sachant que son frère va être malade et va dépérir et que sa vie ne tient qu'à ses décisions à elle. Voilà, c'est très...
Tu as un lien quand même avec la couverture, cet oiseau mort, du coup.
C'est un thriller, il y a déjà un oiseau mort, quoi.
Voilà. Non, mais c'est elle avec... qui tue les oiseaux.
Et ben, non, en fait, pas du tout, c'est pas du tout.
Sorcellerie,
non, non, c'est pas parlé, mais on pourrait se dire, elle est un peu sorcière, donc pour le coup, pourquoi pas. Mais voilà. Mais c'est tous les autres animaux, donc moi, j'aurais peut-être, sur la couverture, vu plutôt, je sais pas moi, un cochon mort ou une vache morte, ça aurait peut-être plus correspondu aux animaux qui sont cités, mais voilà. Et après, donc, moi, je suis allée voir un petit peu les critiques pour voir ce qui était dit, ce qui ressortait. Donc, effectivement, c'est assez déroutant pour tout le monde, c'est original. Et donc, certains y voient plusieurs explications, plusieurs thématiques. Bon, la sorcellerie, forcément. La xénophobie sur certaines autres choses. Tout ce qui est rejet de la différence, bien entendu. Donc ça, on le voit, on a l'impression de le voir dès le départ. Donc c'est toujours pareil. On ne sait pas trop, en fait. Et puis, au final, on se demande si c'est pas nous qui sommes complètement crédules à la lecture de ce livre. Voilà, c'est déroutant, intéressant.
Et c'est la rentrée littéraire aussi.
Eh bien oui, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti.
C'est pas printemps plutôt, celui-là?
Mai 2025, je crois que c'est.
Il me semble que c'était.
Mais bon, voilà, il est...
Oui, il est sorti plus tôt, parce qu'elle est déjà finaliste de deux prix du Booker Prize. Ouais. Non,
elle est
2023. Finaliste du Booker Prize 2023 et lauréat du prix Gillet, je sais pas comment ça se dit. Elle est de Montréal, cette jeune dame.
Mais voilà, intéressant, que je n'aurais jamais lu forcément.
Voilà, comme quoi.
Hein. Tu vois, ça nous sort de notre zone de confort.
Exactement. Valérie, tu as un livre qui peut faire transition avec l'histoire de Marlène, il me semble.
Laisse-moi réfléchir, oui, je peux vous parler.
Oh, c'est le message que tu m'as fait passer en scred.
Ah, mais tu sais lire le morse, maintenant?
Eh bien oui, c'est d'accord. Ça, j'ai compris. Tac, tac.
De façon très courte, parce que je me suis dit, Élodie va critiquer cette couverture, qui est une photographie en noir et blanc d'un feu. Un feu ne devrait pas être en noir et blanc, sauf que si j'enlève le bandeau, je découvre à l'intérieur.
Ah, chouette.
Alors, d'accord.
Ah, c'est bien moche.
Hop, regarde un petit poster affiché
ouf,
dans
ouf,
ta
chambre. Ouf, il y a de l'idée.
Cadeau, le poster, tu la mettras dans ta chambre. Et regardez, hop, regardez sous le poster, qu'est-ce qui se cache.
Ah, j'aime beaucoup.
Ouais. Ouais, un petit quatrième de couverture imprimé à la verticale sur le livre.
Ça, original. C'est original.
Ok,
et ça,
on continue dans l'originalité.
C'est validé.
C'est un premier roman, madame.
Oh.
Publié, donc, à le Nouvel Attila. Voilà. Une histoire... Tout à fait belle. Une histoire... Attendez, je prends des notes. Hop là. Parce que je ne fais jamais d'impro. Non, je plaisante. C'est l'histoire de Malu. Donc, c'est une jeune fille. Au début du livre, elle a 12 ans. Et elle vit dans la campagne. C'est pour ça que j'ai senti un lien. Parce que moi aussi, c'était dans une ferme. Et j'aime bien les fermes. Et donc, dans cette ferme, ils sont trois à vivre. Et autour de leur ferme, qui s'appelle le bosquet, je crois, il y a trois montagnes. Chaque montagne a sa petite caractéristique... une qui est un peu bourrue, une montagne dure à accéder, avec une terre âpre, un peu comme le papa. Il y a une montagne où le soleil ne va plus dessus, mais un peu comme la grand-mère qui est en train de perdre un peu la tête, et une montagne plus jeune, plus fleurie, donc qui est Malu. Et on suit donc la vie de cette jeune Malu dans sa ferme, dans sa campagne. Où elle est très espiègle. Quand elle rentre du collège, on sait qu'elle part pendant 4 jours au collège et elle a qu'une envie d'aller rejoindre sa ferme. Elle voit son père en train de galérer pour survivre dans sa ferme, et elle est pourtant, malgré tout, elle est pleine de vie, pleine de belles choses.
Et on suit dans ces personnages-là. C'est un roman, c'est un parcours initiatique entre ces trois personnages. Et la nature aussi est un personnage autour de tout ça. La terre, les animaux, le climat sont omniprésents dans l'histoire. La vie de Malu qui grandit, qui va devoir faire des choix très, très durs. Vu son âge, on la suit aussi. Les lourdeurs aussi de la terre, du monde, de l'environnement. Plus de sécheresse, plus d'inondations. Comment on fait? Et on dit qu'elle est à contre-vent. Elle n'est pas en contre-courant, elle est à contre-vent. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et moi, j'ai trouvé que pour un premier roman, c'était juste. C'était lumineux, c'était plein de belles choses. Et on a une chance inouïe parce que...
C'est la nièce de Marie de Palais.
Même pas, mais... Non, 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 alors tu es...
Elle vient à la librairie.
Tu es pas du tout, non.
Non, non, mais pas du tout, c'est...
Elle a glissé 3-4 mots d'occitan dans le livre, et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, parce que ces mots d'occitan... Arrive, ouais. Non, mais je ne savais pas. Oh, mais vous
mais
êtes terrible.
Moi non plus, je ne savais pas.
Non, non, je vais te jeter ce livre avec rage et fougue. Si tu continues à être comme ça, Ludovic Terreul. Non, elle est de l'Aveyron et c'est un premier roman. Alors elle est chercheuse dans un laboratoire, si j'ai bien compris, mais j'ai pas cherché plus que ça. Et c'est vraiment quand j'ai lu le roman, j'ai dit mais tiens, c'est marrant. Qu'il y ait des petits mots comme ça.
T'es sentie un peu à la maison.
Ouais. Je me suis sentie bien. Okay. J'ai senti un peu à la maison, effectivement. Non, mais c'est voilà et c'est. Ça faisait du bien, justement, parce qu'après après la récréation est finie, il y a des grandes phrases, où c'est que ça demandait une concentration importante. Celui-là, c'est pas qu'il soit simple à lire, mais il est juste, il est rafraîchissant. C'est pas non plus gnangnang, hein, c'est pas... bon, voilà.
C'est pas du terroir.
C'est pas terroir, non, c'est honnête. Je sais pas comment l'expliquer. C'est authentiquement bien et c'est très contemporain à la fois. Et c'est un hommage à la nature, à la terre. Je trouve ça vraiment surprenant parce qu'elle est toute jeune. T'as pas fait sa biographie du coup?
Ben non, non. Ah. Par contre, j'aimerais bien la rencontrer si elle venait dans le coin.
Elle est née en. J'ai pas mes lunettes. On va dire 90.
On peut pas l'inviter.
Si, on va l'inviter. Donc, Clarence Angle Sabin, si vous nous écoutez, sachez que vous êtes la bienvenue.
Clarence Angle Sabin. Ouais. J'irai voir si elle a un compte Instagram.
C'est possible. Non, mais sinon, on appelle le Nouvel Attila, qui est une très bonne maison d'édition également. Mais je suis sûre qu'ils nous diront tout.
D'accord.
Non, c'est vraiment à lire, à découvrir. Même pour les amateurs de terroir, ça fait sortir un petit peu au niveau de la littérature, de la narration de Marie de Palais, de Gilbert Borde, hein, qui sont respectables, mais qui sont dans un champ lexical bien à eux. Et là, on a le côté très terroir, très terre, l'âpre de la ruralité, avec une écriture franchement fraîche et jeune.
Et oui, parce qu'elle est jeune.
Bah oui.
C'est bien, mais c'est intéressant. Nous, bien on aime les jeunes qui écrivent des romans de terroir.
Et le livre, donc, il y a un petit poster.
Du terroir, c'est super.
Ouais. Ouais.
Mais tout en étant dans le terroir, c'est waouh.
Ouais. Et dans les fermes, des fois, il y a du foin, des fois, il y a des petits animaux, il y a des petits hamsters qui se baladent. Ou pas.
Ah, cette transition,
non, c'est des ratopiers. Il y a des ratopiers qui se baladent, mais on ne va pas parler de ratopiers, on va parler d'hamsters avec Elodie. Alors, et moi, j'aime bien la couverture. Alors,
moi, j'aime bien aussi.
Alors, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Non, c'est, voilà, c'est un peu voilà, c'est un hamster moche.
C'est un chamster.
C'est ça. C'est un chamster qui est en train de fumer une clope. Donc, je vais vous présenter. Donc, tu aurais pu faire une petite intro un peu, non?
Eh bien, si. Alors,
ah, vas-y, je t'écoute.
Alors, c'est le journal
d'Edward
Hamster Nihiliste 1990, écrit par un frère et dessiné par sa sœur Myriam Elia, artiste visuelle et comédienne, née à Londres, et son frère Ezra Elia qui, lui, a écrit le texte.
Voilà, une fratrie. Et en fait, ça, je crois que c'était vraiment partie de leur hamster de qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et donc, elle avait imaginé... Myriam, elle avait imaginé ce qu'aurait pu penser son hamster. Et en fait, on se retrouve sur un... Alors déjà, attendez, avant de vous présenter ce livre, je voudrais rendre hommage à Marion, qui est une lectrice de la bibliothèque de Balsiège, qui m'a présenté ce livre qu'elle avait sur sa table de chevet. Et franchement, c'est pas nouveau, il est de 2013, et ça aurait été dommage de passer à côté. Donc, contrairement à ton livre sur le chat et le pain, là, vraiment, il y a du contenu. C'est un livre donc, qui a un style graphique assez austère, assez simpliste. Hein, à chaque fois, donc, on a une page, un peu de texte et une illustration qui est toute simple et qui est un petit ovni. Un mélange un petit peu entre un album illustré et un traité existentialiste, on va dire. Mm-hmm. Puisqu'on est donc en train de suivre Edward, qui se pose des questions, qui observe sa propre vie.
Il est nihiliste.
Ah mais, ouais, non mais, ah, il est complètement désabusé. Hein, alors, désenchantement total.
Il a vécu qu'un an, comme tous les hamsters.
Ah, mais, c'est déjà bien. Ah non, ouais. Mais alors, donc sa cage qui va symboliser un peu les contraintes sociales qu'on a dans la société, un peu la routine, donc de l'eau, une roue, des graines, ok. Mm-hmm. Et donc, un humour noir à la britannique, qui est absolument mais génial. Je peux vous lire un petit extrait ?
Oui,
évidemment. Et pendant que tu cherches, je voulais juste te dire, ils ont écrit une série de sketchs ensemble à partir de La Vie Authentique et la presse de leur hamster Edward, qu'ils ont été donnés à Radio 4 Comedy Show. Donc à la base, c'était des sketchs qui donnaient en direct à la radio.
Voilà, un peu d'humour. Donc, nous sommes le samedi 1er juin, parce qu'on est en mode donc, journal intime. Roux, graines, eau. Roux, graines, eau, n'y a-t-il donc rien d'autre ? Il est temps que je réagisse, que je lutte pour mes propres droits et pour tous ceux qui subissent le joug de la tyrannie. Il faut que je me révolte contre les mains cruelles de ces brutes qui ont tout pouvoir sur moi. Sachez que dorénavant, je n'absorberai plus ni nourriture ni eau jusqu'à être libre ou mort. 14h33, en grève de la faim depuis 2 minutes. Je suis fort et déterminé. 14h36, cela fait maintenant 5 minutes. Je commence à me sentir faible. 14h41, les graines, elles me narguent. 14h45, j'ai perdu 1 gramme, peut-être même plus. 14h47, voilà assez de sacrifices pour la journée. De quelle utilité un hamster mort peut-il être à la lutte ? Par conséquent, j'ai mangé 50 de graines et bu toute mon eau. Voilà. C'est ça tout le long. Alors, il rencontre l'amour, il rencontre un copain. Enfin bon, c'est...
C'est petit ça, format.
C'est hein, ah, c'est tout petit, ouais.
Là, par exemple, tu as tourné 4 pages en racontant ça.
Il y a 90 pages quand même. Il y en a, court, y a un peu de contenu, voilà. Mais non, mais c'est très, très drôle. Franchement, je vous le conseille, c'est super.
Parfait, merci beaucoup Elodie. Ben, je crois qu'on va continuer avec toi.
Moi je vais prendre la parole. On a parlé nihilisme, allez j'ai senti la petite perche.
C'est vrai.
Ouais, hein, quand même. Hein. Alors, qui dit Walcard dit hors thème, mais quand même je vais faire un petit lien parce que si la couverture est pour le coup très très sympa, on est sur une couverture colorée.
10-18.
Ouais, le bouquin, c'est... voilà, la couverture est chouette, ouais. Par contre, le héros est dégueulasse. Mais vraiment...
Non, si.
Alors oui, je vais peut-être... Voilà, je prends un risque, c'est que je chronique un livre aimé à cette table, donc...
Tu ne peux pas... Ah.
Voilà, déjà, il faut savoir que c'est un classique de la littérature américaine dont je n'avais jamais entendu parler et qu'on m'a mis entre les mains en me disant presque, quelle honte que tu ne connaisses pas ça, lis ça.
Je crois que c'était le terme exact, c'était « dépêche-toi ».
Oui, je me suis dépêchée et j'ai très bien fait parce que pour le coup, je me suis marrée. Mais je me répète, le héros est dégueulasse.
C'est un vieux garçon à qui il manque certains codes dans la vie de tous les jours.
Non, voilà. C'est pas que ça, excuse-moi, mais il a un vieux bonnet dégueulasse qui lui cache les oreilles.
Une casquette avec des caches-oreilles.
Il a de vrais problèmes gastriques.
On peut pas juger les gens sur leur physique, c'est mal.
Je ne rentrerai dans sa chambre pour rien au monde. Elle est crade, elle pue, on ne sait pas bien sur quoi on va mettre les doigts. Bref, il est... Atroce, c'est-à-dire que, et ça ne s'arrête pas tout le long du bouquin, vous allez avoir envie de le baffer, Ignatius Reilly.
Hein, il t'amène au Boulignac.
Oh là, au Boulignac.
Ah. Il était juste alors, américain.
Ça fait partie quand même de mes petits hicks, le Boulignac. Le Blue Jean, B-L-O-U-G-I-N-E.
Boulignac.
Voilà.
Mais maintenant, moi, je prononce tout le temps comme depuis la conjugation des imbéciles.
J'ai un petit souci sur la traduction. Des mots d'argot et des mots des anglicismes où j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois.
Mais qu'on n'a pas donné le titre encore.
Si, La conjuration des imbéciles, j'ai dit, de John Kennedy Toole.
À lire absolument.
Alors, effectivement, à lire absolument, vous ne ressentirez ça dans aucun bouquin. C'est-à-dire cette crispation, cette haine contre une personne qui pense être le centre du monde, mais qui est antipathique au possible qui est
Vois la tapisserie de chez sa mère pendant que tu parles.
Ben voilà, mais oui, tout est génial. C'est-à-dire que il y a des personnages absolument fabuleux. Je pourrais ouvrir le livre là à n'importe quelle page et tomber sur une scène incroyable, cocasse, drôle, complètement improbable. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle et c'est un talent fou d'avoir, parce que j'ai lu les 10 premières pages et je me suis dit, punaise, il faut que je le lise pour faire plaisir à la personne qui me l'a offert. Mais si je ressens ça, cette haine contre ce héros pendant... parce que c'est pas un petit bouquin, hein, il fait plus de 500 pages.
Tu aurais eu la haine en retour.
Voilà, alors j'ai bien ressenti cette rage. J'ai été crispée tout le long du bouquin. Il vit chez sa maman, il est infect avec elle. Il écrit des textes, parce que monsieur est allé à l'université pendant 10 ans quand même, hein, donc il s'exprime plutôt bien. Il a pris le bus, voilà. Voilà, il tourne autour d'une histoire de bus pendant des heures. Une fois dans sa vie, il a pris le bus pour quitter. Et donc, il raconte cette histoire à tout le monde et du drame qu'il a vécu, tout ça avec des grands mots. Et puis bon, évidemment, tout est vide là-dedans.
J'adore ce livre.
Oui, c'est... Voilà, j'ai bien fait de pousser parce que effectivement, je suis restée crispée, mais jusqu'à la dernière page, hein. Vraiment, jusqu'à la dernière ligne, j'ai envie de le massacrer, ce héros. Mais c'était fantastique. J'ai passé un excellent moment. Jamais je n'aurais lu un bouquin comme ça si j'avais lu la quatrième de couverture, parce que si la couverture est sympa, la quatrième ne te ment pas. Tu sais que tu vas avoir envie de le tabasser. Mais voilà, c'est vraiment fabuleux à la fois pour les personnages, pour les situations. Même si j'ai eu un petit souci sur la traduction de l'argot, tout le reste de la traduction, l'écriture est géniale. Franchement, c'est fabuleux. Lisez-le, c'est extra. Ah, vous allez vous marrer.
Bien vendu, celui-là. Ouais. C'est un livre, de toute façon, tu ne peux pas le choisir parce qu'il est posé sur une table dans une librairie. Tu ne le choisis que parce que quelqu'un t'en a parlé. C'est un livre qui se passe de bouche à oreille.
Non, quand même pas.
Si tu le vois sur une table, Conjuration des imbéciles, oui. Tu lis effectivement.
Mais
comme
c'est un livre tellement connu et reconnu maintenant que c'est plus du bouche à oreille.
Oui, mais c'est pas pour tout le monde.
Ce livre est quand même, c'est quand même dramatique parce qu'il a une histoire particulière.
Ah, oui,
cet auteur a une histoire particulière, c'est que c'était l'écrivain John Kennedy Toole. Il voulait être écrivain, il voulait être que écrivain. Donc il a écrit ce livre et il s'est dit j'ai fait un chef-d'œuvre. Il envoyait à toutes les maisons d'édition, pas de réponse pendant un an, deux ans, trois ans. Il a relancé, pas de réponse. Il a fini par se suicider en se disant ben voilà, je veux être écrivain, je le serai jamais. Ma vie ne sert à rien. Et ce roman qui, quand même, était passé partout, un jour, il y a une personne dans une maison d'édition qui est tombée dessus et qui a dit « Mais c'est extraordinaire comme roman ». Donc, il a appelé la mère de John Kennedy Toole qui lui a dit « Mais il est décédé, il s'est suicidé il y a trois ans ou deux ans, juste avant
».
Il a édité à titre posthume. Il a été prix Pulitzer en 1981, quand même.
Ça, c'est fou.
Et c'est un classique de la littérature américaine. Ils ont sorti la Bible de Néon qu'ils ont retrouvée quand l'auteur avait écrit le livre à 12 ans. Qui n'avait jamais été édité, c'était chez sa maman, et qui est pas mal, surtout pour 12 ou 14 ans, qui est pas mal, qui vaut pas ce livre, mais voilà.
Mais quel gâchis, il aurait pu en écrire des milliers d'autres.
Et oui. C'est ce que dit la quatrième de couverture que j'ai lue juste avant, là, effectivement, c'est on n'est que triste de se dire qu'on ne va jamais lire tout ce qu'il aurait pu écrire.
Voilà. Et moi, j'adorais quand même le héros. Je m'y suis identifié parfois. Il m'a jamais crispé.
T'as des problèmes gastriques.
Je me suis senti la mère, tu vois.
Toi, tu t'es senti la mère.
Totalement. Ouais. C'est comme si j'étais ta mère à toi.
C'est ça. Une fin tragique, c'est Hermine de Clermont-Tonnerre aussi, également. Elle a une fin tragique.
Ah,
elle est décédée d'un accident de moto. Écrivain qui était écrivaine et journaliste. Elle a écrit « Je voulais vivre ». Elodie, c'est le livre que tu as nous présenté. Alors, elle était
livre. Styliste
chez Dior et elle a fondé une société de communication événementielle. Alors, la couverture, je ne sais
Hermine
pas pourquoi
Adélaïde,
tu l'as trouvée.
Hermine la même ?
Oui, la même.
Ah bon ? D'accord. Alors, un livre qui est complètement, moi, que j'ai choisi parce que j'ai trouvé qu'il avait strictement rien à voir entre le contenu. Enfin, il n'y avait pas de lien évident entre le contenu et le... Et la couverture, alors moi, les photos des auteurs, en fait, je m'en fiche toujours un petit peu. Et qui est complètement...
qui laisse pas du tout transparaître le ton romanesque et incroyablement intense qui correspond à ce livre. Ce livre est génial.
C'est qu'on va lire un essai sur le handicap ou...
Non, ce livre est génial. Valérie, vas-y. Non, exprime-toi. On a une manif.
Aucune pancarte n'a été levée.
Ouais, ok. Donc, prix de la rentrée pour ce livre.
Pourquoi tu as choisi ce livre ?
Alors, je l'ai choisi parce que je cherchais des couvertures moches et que je trouve que les couvertures de Grasset, en règle générale, d'avoir des surjaquettes par-dessus et...
Jeune pipi.
Et voilà, franchement, c'est pas heureux. J'ai toujours trouvé ça très élitiste avec des voilà, ça oblige à nous. Enfin, on a l'impression qu'on essaye de nous dire la beauté est à l'intérieur du livre et pas
plus,
à l'extérieur.
C'est comme moi. Plus grassé que la Blanche de chez Gallimard.
C'est-à-dire
la Blanche va pas mettre le bandeau aussi
avec la photo quoi. Jonathan Coe, le bandeau, il fait les trois quarts du livre. Maintenant, même les Blanches, ils mettent des
les deux, c'est moche.
Après, même en termes de, je ne comprends pas très bien le concept de rajouter encore du papier par-dessus le papier. Pourquoi on n'imprime pas directement sur la couverture enfin voilà,
pour leur défense, parce que je suis en train de défendre les maisons d'édition au départ. Pour Gaël Faye sur Jacaranda, au départ, ils l'ont sorti, il était chez eux. Avec un bandeau qui prenait la totalité de la couverture. La deuxième ou la troisième réédition, ils avaient imprimé directement la couverture.
Il leur faut trois rééditions avant de comprendre qu'ils pourraient le faire directement dès le départ.
Ça s'abîme dans les transports.
Non, mais surtout qu'on a quand même des éditeurs qui maintenant testent leur couverture bien à l'avance. Ils ont des panels de lecteurs, ils voient qu'est-ce qui correspond le plus. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à.
Tu vois que son visage, est-ce que c'est vraiment. Donc,
mais ça correspond pas du tout au contenu. Franchement, ça correspond pas du tout au contenu. Donc je vous raconte quand même de quoi parle ce livre, qui est super. Franchement, c'est une très bonne surprise. Je l'aurais, pareil, jamais lu si je n'avais pas eu l'émission à faire avec vous. On est donc sur l'histoire de Milady et sur une réécriture des Trois Mousquetaires, l'héroïne des Trois Mousquetaires.
Ça fait beaucoup de particules.
De Clermont-Tonnerre. Mais apparemment, c'est la famille très éloignée d'Hermine qui était très... Elle me déconcentre, j'en peux plus. Pauline, c'est dommage parce qu'on va gâcher la présentation
de ce livre
qui est super. C'est
dommage, on est en train de gâcher la fin de l'émission.
Ouais, et surtout qui est super, franchement, ne passez pas à côté de ce livre. Allez. On est quand même sur la présentation, c'est un livre qui est assez féministe.
On peut plutôt dire qu'elle a fait le rallye des princesses avec Valérie Benaïm. Ça, c'est une information. Voilà. Non, vas-y,
donc
continue.
Elle a été polluée. Passer à côté de ce livre, la couverture est nulle et la présentation du coup est ratée. C'est dommage. Le contenu est super. On est sur un livre qui nous présente une héroïne.
Oui. C'est résolument anti-patriarcal.
Complètement. Alors, on revisite complètement l'histoire des Trois Mousquetaires. On a l'histoire qui se passe dès le départ avec Milady qui est acculée par les Trois Mousquetaires. Et on va revivre complètement son enfance, enfin toute sa biographie, de son enfance à sa mort. Et on se retrouve avec une héroïne qui n'est pas celle qui avait été dépeinte par Alexandre Dumas, qui était qualifiée souvent de machiavélique, d'avoir des mœurs un peu légères, de calculatrice. Voilà. Et on se retrouve avec une femme qui, finalement, est loin d'être sans remords, qui a une vraie personnalité, qui subit les affres de la vie et qui se débat avec, qui vit dans un monde d'hommes et qui, du coup... voilà, et elle est très humaine, et c'est un livre qui vraiment repense la façon, notre façon de voir un petit peu ce qu'on nous a toujours vendu avec des Trois Mousquetaires, des héros. Et là, on se retrouve avec des héros qui sont pas du tout des héros, et on a on repense le truc de l'histoire, et c'est franchement un livre. Moi, je suis déçue, Valérie, que tu sois passée.
Non, mais c'est la fin.
Depuis tout à l'heure, je dis rien. Là, je suis là, j'attends que ça se finisse. Je fais du tricot. Et
tu sais bien qu'à cette heure-là, c'est fini.
Ça s'appelle du sabotage. C'est du sabotage.
Personne n'a entendu le son de ma voix là pendant ta chronique, tellement je la respectais. Je l'écoutais, je me disais, mais pourquoi tant de passion pour ce livre ? Et j'attendais.
Tu l'as lu ?
J'étais toute oui.
Non, mais du coup, elle a envie de le lire.
Ah,
maintenant.
Mais tu devrais le lire, il est très bien.
Et il faut, quand on recherche, il faut faire avec les particules ou...
Oh, arrête, Valérie, très... Non, mais sérieusement, dis-nous plutôt le thème de l'émission, de la prochaine émission, qui est l'émission...
Eh bien,
de...
je vais vous proposer un thème.
Ah non, en novembre, donc ce n'est pas la prochaine émission. Parle-nous de l'émission de décembre, plutôt.
Eh bien, pour l'émission de décembre, je vais proposer aux auditeurs et aux auditrices de choisir les livres qui les ont fait frémir, qui leur ont empêché de dormir, qui leur ont demandé de regarder sous le lit avant d'aller au lit, qui leur ont fait allumer toutes les lumières pour aller servir un verre d'eau dans la cuisine pendant la nuit, qui leur ont remis en question tous les cris, les tremblements, les grincements de leur plancher. En fait, on va vous proposer, avec 48 FM, de venir déposer à la librairie ou par mail, les réseaux sociaux, enfin, comme vous voulez en fait, quel est le titre du livre qui vous a mis le plus les pétoches.
Mais c'est un jeu concours.
C'est un jeu concours. Alors, dans un premier temps, le 31, comme ce sera la journée de la Saint-Samin, le jour où on célébrera les sorcières, je trouverai une sorcière qui piochera au sort, déjà, le gagnant.
Moi, j'en connais, des sorcières. Hein.
Mais justement, t'es dispo ?
Elodie, qu'est-ce que tu fais, 31 ?
Oh, elle m'en veut de voir ça. J'ai rien fait, j'ai brandi juste un petit tract manifestant tout mignon. Bref, donc, le 31 octobre, mon feu, c'est horrible. Attendez, je me tourne parce que je ne supporte pas les regards belliqueux. Je n'aime pas l'adversité. Donc, le 31 octobre, on fera un tirage au sort pour piocher parmi vos propositions, de savoir quel livre vous a fait peur, que ce soit sérieux, pas sérieux, en français, en anglais, peu importe. Et vous gagnez, la personne qui sera tirée au sort gagnera un petit kit post-traumatique réconfortant.
Oui, pour tous les autres qui auront participé au jeu.
Alors, Pauline est en train de mettre de l'huile sur le feu.
Ouais, on la connaît, hein, Pauline.
Voilà. Et pour tous les autres participants.
Tous les autres participants, sauf s'ils sont trop nombreux, parce qu'on ne peut pas présenter non plus 50 livres, on sélectionnera et on les présentera dans cette émission de décembre.
Absolument.
En donnant les prénoms ou pas, comme vous voulez. Voilà, vous choisirez. Et en tout cas, on aura un mois pour lire les livres. C'est pour ça qu'on l'a fait en décembre, vu que la sélection sera connue fin octobre. Donc on aura le mois de novembre pour lire.
Soyez loquaces dans vos sélections, puisqu'après, nos chroniqueurs de 48 FM vont devoir les lire. Il paraît qu'il y a des personnes de l'English Book Club qui ont 2-3 livres en anglais qu'ils aimeraient être présentés.
Voilà. Ben, on les attend avec impatience. Et pour le mois prochain, on ne sait pas, on n'a pas choisi encore. On a une longue liste. On va la choisir.
Je propose qu'on laisse Elodie choisir.
On va la laisser choisir. On va pas faire dire au revoir à notre amie Valérie qui l'a dit en introduction. Donc on va se quitter avec le jingle normal. Salut à tout le monde. On se revoit bientôt hein, en novembre. Qu'est-ce qu'il y a ?
Au revoir.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.